Bonjour à tous, je me présente Louis-Philippe Roy, je suis animateur du podcast.
Et Jean-Philippe Martineau, co-animateur de podcast, et vous écoutez le podcast agricole du Québec.
Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionel, du Québec avec Christian Dionne.
Hey, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Hey, je suis rendu avec un nouveau jingle. Fait qu'il est encore tout chaud, je l'ai reçu tantôt à l'heure du souper. Bien entendu, ben, j'aimerais remercier Claude Fortin du groupe de Backslash Band et aussi un des membres des podcasts du garage avec lesquels j'ai enregistré un podcast pour eux là, pas tellement longtemps, puis qui va être diffusé, en principe, le 26 avril prochain. Le groupe de Claude, le Backslash Band, est aussi disponible sur Spotify, Amazon Music, Apple et toutes les plateformes musicales. Fait qu'un gros merci, Claude, pour le jingle. Hey, tout un printemps qu'on a, super hâtif. Puis pour ceux qui avaient des céréales, ben, ils sont probablement toutes mises en terre au moment où on fait l'enregistrement. Sauf que personnellement, je trouve que c'est encore un peu tôt pour faire du maïs, malgré que les conditions de semis étaient vraiment extraordinaires. Puis, ah oui, hey, pour faire un retour vite sur le podcast avec Jean-Philippe Jolin de la ferme Caprijol. Durant le podcast, il nous avait parlé d'un des produits qu'il fait à la ferme, le dolce de leche. J'ai réalisé plus tard au montage que j'en avais dans le frigo. T'as pas trop fier de moi d'avoir oublié ce détail-là durant l'enregistrement. Puis en passant, son dolce de leche, là, ça goûte le ciel. C'est vraiment écœurant. Alors, vous devez goûter à ça, gang. Hey, c'est maintenant le temps de passer aux invités de la semaine. Donc, ils se sont présentés au début de l'émission, Jean-Philippe Martineau et Louis-Philippe Roy du podcast. Salut les gars!
Yes, sir.
Salut!
Vous allez bien?
Comment ça va?
Ça va super bien.
Oui, ça va super bien.
Super,
toi.
Super. Allez les gars, good. Vous allez vous présenter un peu qui vous êtes. Moi, écoute, je ne vous connaissais pas pantoute. C'est suite à l'infolettre du bulletin des agriculteurs que j'ai découvert que votre podcast existait. Parce que j'avais beau faire plusieurs recherches, par exemple, t'écris agriculture, tracteur, ferme, n'importe quoi dans les résultats de recherche, puis il n'a jamais sorti votre nom du podcast. Fait que, parlez-nous un peu de vous autres. Mettons, on commence avec toi, JP.
Ben moi, pour ma part, je suis nutritionniste pour la compagnie Nutrition Athéna, aussi connue au Québec là, pour Groupe Sarès. Donc, c'est ça. J'ai gradué là, de maîtrise là, de l'Université Laval en sciences animales. Je proviens d'une ferme qui a toujours fait du cochon depuis... depuis toujours. Là, c'est mon père a toujours fait du cochon. Il a été beaucoup impliqué dans la politique agricole. Et c'est ça, Normand Martineau est quand même bien connu là, ici au Québec. Il est encore en production porcine à ce jour. Et c'est ça. J'imagine, on va pouvoir parler un peu plus tantôt là, de comment on a parti le podcast, tout ça. Fait, je vais laisser la parole peut-être à Louis-Philippe là, pour s'introduire et tout.
Puis JP, tu es le frère à Yves Martineau, je pense, de la coop Viveco.
Oui, absolument, c'est ça. On est. C'est ça.
Malheureusement.
Ouais, c'est ça. Compétition direct là, avec Groupe Sarès, ça fait toujours, on taquine tout le temps, mais on réussit tout le temps à se faire des deals de grains pareils. Là, ouais. Il me vend du seigle de l'âge de temps en haut, j'aime bien l'encourager de temps en temps.
Ouais, pour ma part, Louis-Philippe Roy, je suis à la base producteur de porc à Saint-Michel de Bellechasse. Je ne suis pas natif de Saint-Michel, moi j'ai fait un transfert de ferme non apparenté en 2013 avec ma conjointe. Mes parents étaient dans l'industrie, mais plus comme mon père était gérant de ferme, ma mère travaillait aussi à la ferme. J'ai trois frères, on a tous travaillé à la ferme, donc c'était quasiment comme c'était à nous autres, mais c'est ça, dans le fond, En 2008-2009, j'ai trouvé un producteur qui n'avait pas de relève. Donc, puis on voulait avoir un inceur-finisseur. Donc, on s'est établi en 2013. Moi et ma conjointe, ma blonde, a fait un bac en génie agro-environnemental à l'Université Laval. Moi, j'ai fait une attestation d'études collégiales parce que j'ai lâché l'école jeune pour aller travailler. Mais quand tu vas aller demander un prêt à financière, ça va prendre au moins un minimum de diplôme, mais j'avais ma blonde pour banquer, fait que c'est pas si fait, mais quand même, j'ai recommencé l'école, puis c'est ça, je suis impliqué beaucoup aux éleveurs de porc. Je suis président des éleveurs de porc des Deux-Rives, puis deuxième VP des éleveurs de porc du Québec.
Oh, OK, tu sièges à Longueuil en plus.
Oui, ben là, c'est plus à la maison, là, à cause de la COVID, mais oui.
Habituellement, là. Fait que tu peux pas te sauver du train, là.
COVID, je m'en... Comment tu dis ça?
Tu peux pas te sauver non, du train le soir. Train,
ouais, non, c'est ça. Non, c'est clair. C'est clair, mais ça amène le fait de faire des visios, ça amène justement le fait qu'on peut être à la ferme. Tu peux sortir une vanne de cochon, puis 15 secondes, ben pas 15 secondes, mais 10 minutes après, tu es assis en bas dans le salon, dans mon bureau, puis je fais ma réunion. T'sais, ça a des avantages, mais c'est pas pareil.
Mais il y en a qui doivent trouver ça dur pareil, parce que il y en a plusieurs, je les regarde aller, là, on dirait que s'il n'y avait pas de ferme, ils ont une ferme quasiment pour être juste dans l'UPA. Fait que là, ils sont souvent partis. Écoute, ils sont souvent partis là avec la pandémie, qui sont pognés à la maison. Là. Hey, eux autres devront un mur en tabarouette. Là. Ils sont pognés pour faire le train. Soit ils avaient l'habitude de se sauver, eux autres. Là.
Comme je te dis, moi, c'est sûr que dans tout ça, il y en a des gens. Moi, tu sais, ça m'a surpris de voir des gens. Bon, je pose éleveur, là, mais. Je pense que j'étais à une réunion à l'UPA, puis j'étais au conseil général, puis à un moment donné, je me vais d'abord. C'est la première fois que j'étais allé au conseil général, puis remplacer mon président, puis tu sais, du coin de l'œil, dans l'après-midi, j'en vois 3-4 dormir, j'étais comme, hey les gars, je commande un peu, mais tu sais, c'est. c'est pas moi qui dormais, là, by the way, mais c'est ça. Et, écoute, ça fait partie de la game de travailler dans un esprit.
Yes, hey, si on parle un peu de votre podcast, le podcast. Vous avez commencé ça, comment vous est venue l'idée de partir ça?
OK, ben je vais commencer, c'est mon idée est venue de moi en premier, puis on la compte tout le temps de cette façon-là. Tu sais, dans le fond, avec la pandémie, ben tu sais, on est justement un peu là-dedans, là, on a parti des podcasts, t'as parti ton podcast aussi, je pense que la pandémie a fait en sorte que ça a emmené ça. Puis au début de la pandémie, au mois d'avril, j'ai commencé à écouter un podcast qu'on a eu la semaine passée justement sur le show Marcio Gonzalez de Swanet Podcast.
Puis c'est le plus gros podcast là, sur le sur cochon. Le port, là. On pourrait dire quasiment anglophone, là, c'est mondial. C'est le plus gros.
C'est ça. Puis Marcio, il est, c'est sûr que c'est pas pareil comme nous qu'on fait, mais c'est l'idée, elle vient de là. Puis dans le même temps, moi j'étais un grand fan du band MXPX. Puis le chanteur faisait à tous les vendredis soirs des shows acoustiques live. Fait que là, je trouvais que c'était une belle façon de rentrer en contact avec ses fans. Puis tu sais, c'était gratuit en plus. Fait que là, j'avais dit à JP, là, on se part un podcast, puis on parle sur le cochon, puis tout ça. Puis tu sais, au début, je voulais comme plus aligner ça comme Marcio. Tu sais, Marcio, il y a des invités qui viennent. Puis c'est plus des sujets, je dirais pas scientifiques, mais plus poussés, tu sais.
OK.
Fait que là, c'est là que j'ai lancé ça à JP, puis sa première réponse a été non. Puis un bon matin, je pense qu'il était comme 6 heures du matin, là, on téléphone, tu sais, en vrai, dans la vie, on est des amis, là, fait que on se texte de bonne heure, mais tu sais, à 6 heures du matin, il m'appelle. J'étais comme, what the fuck, y a-tu un problème, là, tu sais? Fait que là, c'est là qu'il me dit, j'ai pensé à ça pour faire le podcast. C'est là que JP embarque.
c'est là que l'idée, c'était que je voulais pas juste expliquer au monde des techniques de production ou quoi que ce soit, c'est juste sur un audio. J'avais vu, c'est la nuit d'avant, je regardais des jeux vidéo. C'est quoi le jeu vidéo, Louis, là, c'est qui
je sais pas. World of Warcraft?
Non, ils font la guerre, là.
Call of Duty.
Call of Duty, tu sais. Puis là, tu vois le gars gamer, puis lui est dans le coin, puis là, je me dis, aïe, aïe, c'est ça pour faire, mais au lieu qu'on voit le gars gamer, on va voir comme des truies en train de se faire inséminer, ou t'sais, des vraies affaires, des truies en parc, ou, t'sais, différents systèmes de truies en parc, etc. Puis nous, on pourrait être les petits gars dans les coins, en train de parler des vidéos qui est dans le background. Fait que, t'sais, c'est là qu'on a dit, OK. Ça pourrait, je pense qu'on pourrait mieux expliquer nos idées, à cause de la majorité de nos idées, c'est mieux quand on peut les voir. Oui. On n'était pas sûr d'être nécessairement capable d'avoir ces conversations, d'expliquer concrètement ce qu'on veut dire, c'est quand on donne ces recommandations-là, qu'au souvent, on va donner soit des recommandations ou on va débattre sur des sujets, que on voulait avoir vraiment un support visuel pour expliquer nos idées. Fait que c'est là qu'on a dit, c'est là que j'ai fait, ouais, là, il y a quelque chose. Là, c'est au-delà de ce que j'ai vu présentement, je pense qu'on apporte quelque chose de nouveau, ça pourrait pogner. Puis c'est là qu'on a fait, je pense que c'était un samedi soir ou un dimanche soir, on a fait un intro, ou qu'on a fait un Facebook Live, on avait, ouais. Je pense, ça ressemble à la paire d'écouteurs que présentement, Louis, c'est quelque chose de bien basic, on a mis ça à table, c'était notre audio, notre visuel, c'était vraiment, là, on était vraiment à base, puis au final, on avait pas beaucoup d'expérience dans le visuel puis de l'audio. Moi, je suis nutritionniste.
Oh, ouais, moi, je suis producteur. Là,
t'as embarqué dans
moi aussi, je suis producteur.
Là. Ouais, c'est ça.
T'as embarqué dans quelque chose que t'es un peu trop technologique à notre goût. Là, puis, mais on s'en est bien sorti. Puis finalement, la vidéo qu'on a sortie, c'est un Facebook Live ce samedi soir-là. À notre niveau, là, à notre échelle, là, c'est devenu viral. Là.
Écoute, ça a monté. Je pense que je l'ai regardé juste pour le fun. Tu sais, les statistiques dans Facebook, ouais. Qu'on lit sur Facebook. Tu sais, je pense qu'on est rendu au pas loin du 10 000 visionnements du vidéo d'intro.
OK.
Tu sais, sérieusement, là, en l'espace de... Tu sais, moi, je reste à Saint-Michel, JP à Saint-Nicolas, à une demi-heure, mettons. Là. Puis tout le long que je descendais, j'en revenais en char, mon sel n'arrêtait pas de vibrer. Puis j'arrive à la maison, écoute, je pense qu'on s'avait fait faire la calotte ou avant, ou le t-shirt, je me souviens pas.
Ouais.
Tu sais, le monde était, on veut des calottes, on veut des t-shirts. On n'avait même pas fait un show, là,
non, on avait fait juste 2 minutes pour dire ce qu'on avait en tête, puis si on se présentait un peu.
Ouais, c'est ça.
Ben, puis tu sais, il va y avoir le premier épisode, mettons, dans 2 semaines. Puis c'est là déjà, là, on avait comme 500 followers sur Facebook.
Ah, c'était n'importe quoi.
Puis,
mais vous aviez déjà votre logo?
Excuse?
Vous aviez déjà votre logo quand vous aviez commencé votre... Moi, j'ai commencé à faire du podcast, puis après ça, j'ai embarqué sur Fever pour avoir un logo, puis je viens d'avoir mon jingle.
Il n'y a pas de meilleure ou mauvaise technique. Mais, dans notre cas, là, c'est ça. Mais nous, on avait le logo puis tout, mais on n'avait pas encore le visuel puis l'audio. Là,
okay.
Je pense que c'est mieux d'avoir ton jingle plus tard et avoir figuré tout comme un marché micro à premier. Mais ça, on l'avait fait à l'envers. Fait que non, c'est ça. À ce jour, on a 1315 followers. On est peut-être rendu à l'épisode 6.
En français, on a fait en anglais aussi.
Deux en anglais.
On a commencé en anglais. On est rendu au deuxième là, en anglais. On explore. C'est jeune. Là, ça fait juste 6 mois. On est encore au stade où on explore, on tente le terrain. Mais à date,
Il y avait une demande aussi. Dans le fond, vu que ça. Je pense que dans la façon que JP avait emmené l'idée d'avoir des vidéos. Tu le sais, là, Christian, t'es producteur toi aussi, tu veux tout le temps voir ce qui se passe dans la bâtisse du voisin, tu veux. Puis moi, je pense que la crédibilité du show, c'est le même qu'on a eu, c'est que quand que moi je parle des inséminations, ben c'est chez nous dans la bâtisse. Quand je fais un live, je suis à travers les truies. Fait que les producteurs se sont rendus, se sont comme reconnus dans ça, puis de montrer que on avait une transparence dans ce qu'on disait dans tes chiffres. Tu le sais, là, dans le lait, dans le porc, il n'y a pas de compétition, on est tous sur le même prix.
On
dirait que dans le milieu agricole, tu sais, faut pas que tu dises que t'es sacré. Puis c'est un peu ces barrières-là qu'on voulait faire tomber. Puis c'est ça que les gens se sont reconnus là-dedans. Fait que c'est ça, on a parti le show, ça a super pogné. Tu sais, les GP, vu qu'ils travaillent beaucoup aussi avec des gens de l'Ouest, ben eux autres aussi ont eu, on m'a dit, hey, ça serait cool que vous le feriez en anglais. Fait que c'est là l'idée qu'on s'est dit, OK, on pourrait le faire en anglais.
Ouais.
Mais en anglais, c'est une autre affaire aussi. Là, c'est pas notre langue première. Moi, c'est plus tough pour moi. Je me débrouille, mais maintenant, c'est moins évident que le français. Là, on s'entend. Puis le JP a la chance d'avoir une conjointe qui parle anglais. mais c'est ça l'aide là, quand même. Mais c'est ça, tu sais, c'est un autre défi. Mais sérieusement, moi, je suis pas content que les gens se sont mis à l'écouter, mais aussi à participer au show, parce que quand on écoute le show, le chat est super important, parce que c'est là que les gens vont poser des questions. Wow. L'idée du chat aussi que JP avait, c'était que quand tu vas avoir une conférence, le gars donne une super conférence, il y a 300-400 personnes, puis il dit, y a-tu des questions, puis il y a personne qui se lève, mais c'est sûr qu'il y a des questions dans la salle. T'sais. Fait ouais. qu'on se disait, t'sais, chez vous, avec ton sel, tu seras pas gêné d'écrire une question au final. Fait que, tu sais, un moment donné, il y avait un show, là, sérieusement, il y avait tellement de questions que j'avais pas le temps de lire les questions. Là. ça rentrait au fur et à mesure. Là, on ne fournissait pas. Ça. Là. C'est ça qui anime aussi les discussions entre moi et JP. Puis, c'est ça. Mais, côté anglophone, c'est comme là, les gens ont moins catché un peu ce qu'on faisait. Puis, mais on ne lâche pas la serviette tout de suite. Je pense que le show a un... Tu sais, la régie d'élevage, que ce soit en français ou en anglais, écoute, c'est de la régie d'élevage, tu sais.
Bon, ouais.
Fait que je pense que c'est ce qu'on fait là, avec les vidéos et tout ça, c'est super intéressant. Faut juste peut-être trouver une autre manière de pousser, de faire le show un petit peu différent pour justement aller chercher plus de followers au niveau anglophone. Mais tu sais, l'idée, c'est de partager ce qu'on fait, tu sais.
Ouais, ouais. Puis c'est quoi le programme que vous utilisez? Parce que vous êtes en vidéo ensemble? Bon, vous n'êtes pas ensemble, là.
Non, on est séparé, ouais.
C'est le même décor qui est en arrière. À un moment donné, toi, Louis-Philippe, tu fais pas mal de gestes quand tu parles, puis à un moment donné, on perd le bras. Donc, on voit qu'il y a une coupure là, au niveau du décor. Là, mais puis après ça, c'est le dernier que vous aviez fait là, avec le gars du Schwein Show, je sais pas trop. Puis à un moment donné, bon, tout là, vous êtes pas disparu, vous étiez en bas de l'écran, puis lui était vraiment plus gros en haut. Et c'est quoi ce programme-là, au juste? Parce que ça m'intrigue pas mal.
Ben ça, c'est OBS.
OBS?
Oui, ça s'appelle... OBS, ça veut dire Open Broadcast...
Streaming?
Streaming, exact.
OK, OK.
C'est tu peux downloader, là, c'est ouvert à tous, c'est gratis. Puis c'est plutôt simple à utiliser, mais ça te permet d'avoir différents inputs d'audio, différents inputs visuels. Puis Louis, entre autres, lui est chez lui. Moi, je suis dans le studio. Puis il faut que tu ailles. Pour réussir à rentrer dans l'image, évidemment, il faut que tu ailles un green screen en arrière de toi, là, un écran vert. Fait que moi, dans mon cas, là, dans le studio, le mur arrière a été peinturé en vert
okay.
au complet. Puis Louis, chez lui, dans son bureau, dans le sous-sol, ben, il y a un green screen, un écran portatif.
Ouais,
c'est ça. Fait que ça. Puis pour ramener son son et son visuel, ben, on utilise OBS Ninja. Mais c'est ça. Mais c'est, il y a eu beaucoup d'heures de YouTube là, à.
Comment c'est topé ça?
Investiguer, point après point. Comme je te dis, je peux nourrir tes cochons, là, mais quand vient le temps de faire un. Du streaming, là, je suis pas ton pro, mais je m'en sors. À date, je m'en suis sorti.
Ouais, parce que moi, je suis pas le gars techno.
Il y a des épisodes qu'on fait live, hein. T'sais, c'est tout en live, tu sais. Puis il y a aucun montage dont on pèse play. Puis là, quand je dis we are live, c'est là qu'on se rend compte que on est vraiment live. Puis c'est tout le temps de même. Il n'y a pas de coupure, il n'y a rien. Puis à la fin, quand je mets stop, ben ça, c'est la fin. Puis après ça, je le touche pas. Right? Fait que
c'est
mais vu qu'il y a toujours une heure déterminée, on commence à 7h30, heure de l'Est.
Oui.
Francophone, ben des fois j'ai eu chaud là, parce que quand je fais mes tests puis là le son marche pas, tout quoi. J'ai eu chaud. Il y a des épisodes, ouais, tu le vois, là, quand regarde l'épisode numéro 1 puis 2, comment je suis blême là, t'as pas vraiment idée à quel point ça marchait pas mon affaire.
Puis après ça, tu l'enregistres, tu pognes l'audio puis tu le mets sur Spotify?
Ouais, c'est ça. Après, okay, je fais l'intégral puis le mettre sur Spotify, exact.
OK.
Mais ça gère quand même facilement. Ben, un coup qu'on là, c'est facile, mais tu sais, le problème qu'on n'a jamais été capable de régler, c'était comme parce que là, on est obligé de se parler par cellulaire, parce que sinon, si on se parlait dans nos mics pour nous entendre, il y avait comme des retours de son, puis on l'a jamais trouvé comment faire fonctionner ça. Fait que là, finalement, on ferme le son de l'ordi. On laisse nos mics ouverts et on se parle par cellulaire. T'sais, ça marche super bien, là, c'est super correct, mais tu prends le shell pas payant. Là, fait que par défaut, tu te ramasses avec quelque chose qui marche, mais qui n'est pas parfait. Fait que, au début, on ne voulait pas mettre de, de coûts là-dedans, de dépenser de l'argent. Fait qu'on s'est dit, bon, mais regarde, ça marche. Puis tu sais, quand on l'a fait avec Marcio la semaine passée, ben lui, il était au State. On a fait un appel conférence téléphonique, dans le fond, à trois. Tu sais, ça marche quand même pas pire, là, tu sais.
Écoute, c'est ça. On n'a pas de budget, on n'a pas de commanditaire. Non, c'est ça. On n'a pas non plus énormément de temps. On a chacun nos carrières. Puis on vraiment pour c'est... Nous, le bénéfice là-dedans, c'est que ça nous permet d'avoir des conversations avec les producteurs, c'est voir leurs interactions, puis on en apprend là-dedans, on voit ce qu'ils font ailleurs, ils nous envoient des vidéos, ils nous envoient des photos de ce qu'ils font chez eux, fait que c'est nous autres, c'est là-dedans qu'on gagne, puis on espère qu'ils peuvent recevoir la même affaire qu'on... C'est donnant, on se partage l'information. Ouais. On voulait garder notre indépendance à ce niveau-là, on voulait pas de commanditaire pour pas avoir besoin de... T'sais, on voulait avoir vraiment la liberté de dire si... tout ce qu'on veut en réalité. Là. Si on a un équipement qu'on a plus ou moins apprécié, puis on conseille un autre, ben on ne voulait pas s'empêcher de pouvoir le dire si jamais c'était le cas. Là, fait qu'on voulait garder cette ouverture-là.
On fait attention quand même à ce qu'on dit parce que on ne veut pas se mettre. Le Québec, là, c'est pas gros, mais on ne voulait pas se mettre personne à dos, mais c'est ça en même temps. Moi, si je trouve que telle compagnie fait quelque chose, puis c'est pas terrible, ou je me suis fait dire par du monde. Excusez, que c'était pas terrible. Ben, je voulais le dire parce que le message, on veut que le producteur se pose la question, qu'il se dise OK, t'as peu, là, les gars, on parlait de ça. Maintenant, on avait un producteur qui est venu, Sébastien Pagé, qui est venu parler des sécages ascenseurs. Il nous a parlé de ses problèmes, même si lui est vendu ses cages ascenseurs. Il avait dit il faut que tu sois très transparent, puis on veut pas un représentant. Tu viens, tu travailles avec tes affaires.
Mais si show avait été commandité, imagine si cet épisode-là avait été commandité par le fournisseur. Mais là, on aurait été obligé de juste parler des points positifs, right?
Fait que c'est ça.
Je pense que le monde le voit, là, que on a la liberté de dire ce qu'on veut. Fait que si on trouve que c'est pas nécessairement quelque chose d'idéal, mettons, comme concept, quoi que ce soit, ben ils savent qu'on l'aurait dit.
Là. C'est ça. C'est un peu comme moi, j'ai eu une demande, il y a quelqu'un m'est arrivé avec ça, « Hey, j'ai parlé à mon boss, puis il serait intéressé à te commanditer. » Bon, OK, ouais, mais là, si je vais faire un épisode sur une technique qui est vendue par une autre compagnie, ils vont-tu aimer ça?
Ouais, c'est ça.
Puis d'un autre côté, on s'entend que si je rentre un commanditaire, ce ne serait pas une affaire de 10 000 $ là. Il y a des podcasts pas mal plus gros que moi et toi mis ensemble. Là. Ils ont des forfaits à 13,99 par mois pour trouver des commanditaires. Fait qu'ils n'ont pas des gros commanditaires. C'est surtout pour payer quelques frais de production, des patentes de même. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend que dans le podcast, il n'y a pas grand monde qui vive de ça. Là.
C'est tout du bénévole. Il y a des compagnies qui nous ont approchés aussi, puis tout ça. Puis, la calotte que JP a, au début, on a donné des calottes à du monde, puis tout. Puis, c'est nous autres qui les a payés de nos poches. Là, JP a fait faire deux polos. C'est nous autres qui les a payés. Fait que, des fois, quand je parle à des gens, parce que une chose qui est super intéressante, c'est que les producteurs nous contactent aussi pour avoir des discussions, des fois, plus avec JP ou avec moi, pour genre un sujet X qui ont entendu sur le show, puis ils veulent avoir nos commentaires. Puis quand on leur dit ça, que on n'est pas payé pour ça, tout le monde pense que JP, vu qu'il travaille chez Cerise, il est payé par Cerise de faire ça. Moi, je reçois quelque chose de Cerise, mais non, il n'y a absolument rien.
Non,
toutes les fois qu'on leur dit ça, ils font comme « Ah, ouais, les casquettes qu'on a eues, là, ben, que les producteurs ont eues, qu'on a données au monde, on les a payées. » Fait que, ils sont tout le temps étonnés, mais en même temps, c'est ça, je pense qu'on aimait mieux avoir la liberté. Tu le sais, il y a quelques quand même, il y a du temps. C'est pas beaucoup de préparation, mais quand même, il y en a. C'est sûr qu'avoir un montant X, c'est juste comme ah ben cool, tu reçois un petit montant. Mais en même temps, c'est ça, c'est la liberté qu'on voulait peut-être pas perdre, qui était importante comme pour nous autres.
Là. Moi, je vois ça un peu comme un loisir, comme mettons mon père qui fait de la moto. On s'entend qu'il a payé une moto, mais il fait pas d'argent que ça, là.
Fait que t'sais, c'est ça, c'est clair.
Tu sais, parce que moi, avec tout ce que j'ai, tous les équipements que j'ai achetés, le logo que j'ai dû payer, je suis pas loin de 1 000 $ d'après moi, mis dans le projet. Là. Fait que, tu sais, je m'attends pas à avoir un investissement là-dessus. Là, je fais ça rien que pour le fun, pareil. Là. Sauf que, tu sais, c'est assez prenant. Là, j'essaie d'en faire un par semaine. Là.
C'est du stock, t'as là, un par semaine. Là.
C'est ça, c'est plus. Ça a de l'air de rien, mais tabarouette, c'est quelque chose. Là.
Ben,
Mon intro que j'avais faite, mon premier podcast, là, qui a duré à peu près 2 minutes, je me suis repris 3 fois avant de me dire, ouais, je pense que je vais écrire un texte. parce que là, je cafouillais tout le temps, c'était épouvantable. Mais ceux qui pensent qu'on se met en avant d'un micro, on se met à parler là, en équipe de un tout seul, là, oh tabarnak, là, rends-toi 20 minutes tout seul. Tu vois, c'est de la peau à tabarouette. Tu comprends pourquoi à la radio qu'ils mettent autant de chansons puis de publicité? Ils n'ont rien à dire.
Puis, tu sais, à Québec, la même année, j'avais écouté, je sais pas quel animateur disait ça, tu sais, ça a l'air d'être facile, mais tu sais, 5 jours semaine de faire un show de 3-4 heures, oui, il y a des pubs, il y a des affaires autour, mais tu sais, c'est du talk radio, là, tu sais, il faut que tu prépares tes dossiers, tu prépares tes affaires, là, c'est pas juste d'ouvrir le piton puis on jase un matin, là. Il y a de la préparation, c'est du temps, là, tu sais. Fait que c'est pas vrai que tu peux mettre un micro puis tu commences, tu fais ça, puis, ben, tu peux le faire, là, mais faut que tu sois intéressant, première des choses.
Oui.
Puis après, il faut avoir quelque chose à dire. Puis c'est ça. T'sais, nous autres, les vidéos nous aident beaucoup à justement. Les gens voient quelque chose dans la vidéo, puis après ça, ça nous aide vraiment à animer le show quand on. C'est pour ça que les vidéos sont importantes dans notre show. Là.
OK, ben c'est sûr, ben, tu veux montrer de quoi, c'est plus facile un peu. Dans mon cas, c'était pas. C'est sûr, je m'enlignais pas vers la vidéo, je m'enlignais vraiment vers le podcast audio. C'est quelque chose. Ouais. Tu l'enregistres dans le téléphone, tu ployes ça dans ton char avec Apple CarPlay dans ben des cas. À cette heure, c'est un charme, là, tu sais. Moi, à cette heure, j'écoute quasiment rien que des podcasts. La radio traditionnelle, là, j'ai changé mon pick-up en août passé. J'ai 2 postes d'enregistrer. Puis je les mets jamais. C'est juste des podcasts que j'écoute.
Ah, c'est ça.
Puis bon, si on parle un peu de votre cas, vous êtes producteur de porc, hein, et Yvan Lamoulé. Hein? Comment ça va présentement avec le marché du porc? Parce que là, ça a monté quand même pas mal. Mais t'as le marché du grain aussi qui a monté pas mal. Y a-t-il encore de l'argent à faire ou c'est plus difficile ou c'est comme avant? Ou
Ça dépend. Écoute, je sais pas où qu'on pourrait starter. C'est l'année 2020. L'année 2020. Mettons, l'année COVID a été de haut et de bas pour bien les industries. Puis le secteur du porc a passé là aussi. Tu sais, dans le fond... À partir de du printemps passé, on a eu des porcs en attente.
Ouais.
Le prix a monté. Après ça, le prix a droppé à l'été. À l'automne, écoute, les porcs en attente ont recommencé. Les prix ont droppé. Puis là, tu sais, depuis quelques... Puis là, après ça, après les fêtes, ben là, les grains ont monté, le prix a monté. Mais tu sais, à matin, le prix du porc est très haut, très bon, mais les prix des céréales sont tellement élevés. On roule pas sur l'or. Là, oui, il y a quand même des marges intéressantes, mais c'est pas la folie comme 2014 que tu faisais 100$ du cochon.
Okay.
On est ailleurs. Là. Mais à matin, ça va quand même bien. Mais c'est ça, tu as comme la dernière année, tu sais comme accès, tu as la dernière année qui a moins bien été. Fait que là, pour l'instant, t'en remplis d'un coffre. Là, là, les prochaines semaines, si l'été reste bon, si les grains ne montent pas trop haut, ben là, on va faire une belle année en 2021, tu sais. Mais c'est ça, ça dépend comment ça vire, puis faudrait pas avoir une autre éclosion de COVID dans un abattoir, tu sais, au Québec, parce qu'on arrive, ben là, les employés ouais, bon, vont être vaccinés, mais tu sais, ça emmènerait d'autres problématiques sur les producteurs, puis...
Ouais, c'est
pas évident.
Si on recule un peu, là, si on prend, mettons, l'année 2020 avec le maïs, 2019, quand il y avait des porcs en attente, ce qui était... chanceux dans ma chance d'une certaine façon, c'est crime, mais le bledin n'avait pas de valeur. Tu sais, le bledin, il y avait bien du bledin classé à 5 qui n'était pas trop cher, puis tu sais, le porc, il attend, mais il y a du maïs qui n'est pas trop hard pour être capable de vivre. Là. Fait qu'il ne prenait pas de poids. Là, avoir du porc en attente avec du grain de bien meilleure qualité, au prix qui est là, ça doit être fatigant. Là.
Ouais. Oh non, c'est sûr que, tu sais, il y a des producteurs en plus qui ont été plus pris que d'autres. Moi, dans mon cas, c'était quand même vivable. Là. J'ai pas eu j'ai eu des porcs en attente comme tout le monde, mais ça a quand même bien été. Mais il y a des gars que je connais qui ont rentré en double. JP aussi, là, t'en parlerai après, mais en double, en trip. Puis moi, en tant que président de la région, il y a un producteur qui m'a appelé. Il avait son sevrage dans 4 jours, puis il savait pas où mettre les porcelets.
Ouais.
Fait que, tu sais, souvent, je dis aux gars, hey, appelez-moi avant que ça soit rendu là, puis après ça, on trouvait des solutions, mais C'est ça, dans différents cas, ça a été moins problématique que d'autres, mais sérieusement, ça a été une année tough. Là. Des téléphones de producteurs qui m'ont jamais appelé, j'en ai eu là, dans la dernière année.
Ah, ça doit être.
JP, vas-y, je vais te laisser en parler aussi de ton bord.
Oui, mais non, moi, je voulais... C'est sûr que les grains, c'est fou ces temps-ci, puis il n'y a pas de vendeurs. Hein. On dirait, malgré qu'on offre là, des prix fous pour du maïs, le monde aime mieux les garder dans leur silo.
Ben, ça monte. Pourquoi qu'on en vendrait? Tu te fous, toi? Hein?
Non, il y en a encore que les silos. Ça...
Tu vas le vendre.
Alors, c'est... Non, c'est fou. Là, fait que, mais moi, je veux saluer vraiment là, les producteurs qui sont... pas ingénieux, mais qui se posent des questions. Y a-tu d'autres céréales? Ils veulent essayer d'autres céréales. Ils m'appellent, hey, le seigle, on fait quoi avec ça? Puis, en passant, là, le seigle dans le cochon, là, amenez-en. Là, on nourrit ça là, sans problème. S'il y a un peu d'ergot dedans, là, on sait comment le gérer. C'est en réalité. Okay, okay. Là, quand on va juste en mettre moins, mais le cochon, là, on sait là, les seuils de tolérance. Fait que, on est capable de gérer ça. Puis, il existe aussi des nouveaux hybrides qui vont vraiment. Je ne suis pas vraiment l'expert là, des céréales, mais les hybrides là, sont moins porteurs là, sont moins portés à développer de l'ergot. Là. Fait que si tu peux parler dans ton
dire
show
le seigle hybride?
dans Sommet Plus là, du seigle, ça serait bien. Là. Quoi, apparemment, là, ça a le plus de rendement.
Le seigle hybride, oui, tu sèmes pas fort.
Ouais.
Puis tu aurais plus de rendement aussi avec ça pas mal.
Exact. Fait que je pense qu'il y a un marché. Là. En tout cas, si vous avez peur de ne pas pouvoir le vendre, là, je suis acheteur là, tout le temps. C'est tout le temps un bon marché. Puis c'est versus le maïs, là, ça peut valoir là, presque 95% de la valeur du maïs parfois, là, dépendant des périodes, de disponibilité et de la qualité. Fait que c'est pas rien. Là. Fait que faut juste pas l'oublier comme céréale et la planifier dans sa rotation. Mais si je reviens à la raison pourquoi je parle de ça, c'est que les producteurs, il y en a plusieurs qui sont ingénieux. Puis ils m'appellent du seigle, c'est de l'orge qu'ils ont fait. Puis c'est du... qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? C'est du... de la germe... la germe de blé, c'est plein. C'est cool. Les gars là, sont allumés, ils regardent, ils sont ingénieux. C'est pas, des fois, là, tu peux te plugger sur un produit et tu vas sauver 20$ ta tonne. Il faut juste, être ingénieux et parler avec ton nutritionniste et dire hey, y a-t-il une opportunité avec cet ingrédient-là? On peut-tu générer, au lieu de toujours penser est-ce qu'on devrait mettre maïs, tourteau de soya, drèche? J'ai un producteur, j'ai regardé aujourd'hui l'option. On enlevait le maïs complètement des recettes. Il n'y en avait plus qui rentraient. On bouquait là, pour la récolte de l'orge, du seigle. Puis on va mettre un peu de tourteau de soya puis de l'huile. That's it. Puis des acides aminés. J'ai plus besoin de maïs. C'est pour dire que le maïs, c'est pas essentiel. Faut juste magasiner, faire les appels puis être ingénieux dans des périodes qui sont assez critiques de même. Donc, le message. Là, que, ça, je pense, il y en a plusieurs producteurs qui savent cette game-là, là, mais je voulais être sûr que.
Il faut que tu fabriques le message faux.
Oui,
okay, c'est ceux qui fabriquent
la ferme. Absolument. Mais c'est ceux qui sont à moulée complète, ben, ils ont déjà un nutritionniste qui regarde toutes ces options-là pour lui. Là, fait que ça, c'est déjà travaillé. Mais le gars à ferme qui a des recettes qui datent de 2016 ben, puis qui utilise ça depuis. Là, c'est dépassé un peu. Il faut passer du temps avec son nutritionniste. Si tu n'as pas de nutritionniste, ben, tu as un autre problème.
Est-ce que tu fabriques des moulées, Louis-Philippe?
Non, moi j'étais à moulée complète, dans le fond. C'était un peu comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble au PGB parce qu'on se connaissait pas avant.
OK.
Puis dans le fond, moi je faisais affaire avec une grosse meunier, une autre compagnie. Puis bon, relation d'affaires, ça marchait plus ou moins. Puis JP, je connaissais très bien son père. Puis JP revenait de l'Ouest canadien, parce qu'il était dans l'Ouest un bout. Puis écoute, il m'a fait. On s'est appelé au téléphone, puis écoute, en 30 secondes, ça. De mon bord, j'avais de l'intérêt à le rencontrer. Il m'en a un café le matin. Écoute, c'était signé. Mais, non, c'est ça. Fait que, on a eu une bonne rencontre. Puis, moi et JP, ça a cliqué. Ben, ma conjointe aussi, là, sur l'entreprise. Là, mais où est-ce que ça a cliqué? C'était au niveau des performances, au niveau du travail de régie. T'sais, nous autres, on est vraiment stickés là-dessus chez nous. T'sais, les performances. Moi, c'est comme ça un peu que. J'avais fait mon nom, là, vu que mes parents n'étaient pas en production, mais où ce que j'avais travaillé, c'était, c'est on focus sur les performances, on va monter, je vais remonter les résultats de la ferme, ce que j'étais à l'époque, puis c'est comme ça un peu que je vais me vendre, que je vais me faire une crédibilité, mais ça a toujours resté. Fait que quand on l'a acheté à la ferme, on l'a toujours focusé là-dessus. Puis quand JP est arrivé, ben il y avait des. Tu sais, j'étais un peu tanné de lire l'infolette de la compagnie, me dire bon, ben, OK, c'est correct, fais ça, mais sans place, ça va se régler. J'avais besoin d'être challengé sur mes pratiques en ferme. Puis d'avoir un gars qui travaillait beaucoup en recherche, mais pour moi, c'était important. Ça l'emmenait une valeur ajoutée pour moi, mais aussi pour mon entreprise. Fait que tu sais, le match a été parfait, puis après ça, ben, c'est ça, on est venu amis suite à ça.
Okay.
Puis c'est comme ça qu'on se challenge. Puis même tantôt, là, je le textais, j'ai dit bon, ouais. La stratégie en mise bas, je suis en train de repenser à ça, c'est ça la bonne affaire, on fait ça. Fait que c'est vrai que, comme souvent je dis comme client, d'après moi, je suis un client tannant, là, mais en même temps, le fait de le remettre en question, c'est aussi bon pour le présente.
Non, c'est sûr. Oui, c'est win-win. Non, absolument. C'est ça. Si tu ne fais pas challenger par tes clients, ça va être dur de voir sont où tes faiblesses ou puis tes forces, c'est, puis de continuer ta recherche basée sur tes faiblesses. Là. Souvent, c'est là-dessus qu'il faut que tu fasses. Là. Fait que, en sachant, en ayant des communications avec tes clients, continuer à se faire challenger, je pense que c'est simple pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Puis c'est comme ça que l'entreprise, disons, en travaillant avec JP depuis 3 ans, on a vraiment augmenté nos performances. On s'entend, c'est pas nécessairement JP, là, c'est pas lui qui vient faire l'ouvrage en ferme, mais c'est justement de se questionner, de parler, de re-challenger les affaires. J'ai aussi ma compagnie de génétique avec qui je travaille, qui est un peu dans le même genre aussi, là, le Jean Poulain de PIC, c'est la même affaire. T'sais, on challenge tout le temps ce qu'on fait, puis on se parle souvent. Puis je pense que c'est, tu sais, moi, je le dis souvent maintenant, tu sais, pour un producteur, le fait d'avoir des conseillers proches, j'ai inclus mon vétérinaire aussi là-dedans, d'avoir des gens comme ça proches de toi. Puis, tu sais, d'après moi, peu importe l'industrie, là, tu sais, que tu ailles, je sais pas, une microbrasserie, n'importe quoi, mais que tu te fais challenger parce que t'as les gens, tu sais, un groupe restreint, mettons, qui te challenge, qui te fait pousser ailleurs, qui te fait réfléchir à d'autres trucs. Ben ça l'emmène un plus, là, tu sais. Puis pour nous autres, on n'a pas une grosse entreprise, là, on a 200 trucs, nasseurs, finisseurs, mais la force de l'entreprise, c'est justement son réseau de contacts, puis pour justement la pousser plus. Mais en même temps, dans ferme, ben, on les prend à faire l'ouvrage, là. Tu sais, nous autres, avec le podcast, ben j'ai beaucoup de producteurs qui m'ont contacté, eux autres, ils voulaient avoir la bouteille magique, là. Tu sais, regarde, injecte 10 cc autrui, puis ça va être correct, là, tu vas être capable d'avoir les performances que j'ai. Mais là, nous autres, on focus. Non, t'as un peu, faut-tu mettre du temps dans les bâtisses? Faut que t'en passes du temps dans les bâtisses pour avoir des bonnes performances.
Le rendement n'arrive pas tout seul, là.
Non, c'est ça. C'est en plein ça, tu sais.
Tu sais, puis tu parles d'être challengé, puis c'est un peu pareil de mon bord, là. Tu sais, j'ai plusieurs représentants, disons, qui font partie de l'équipe. On peut dire ça de même, là, tu sais, ils veulent que je performe, là, et autant que moi, je veux performer, là, fait que... Puis d'autres bâtiments, hey, vous savez, c'est quoi les 7 pires mots à prononcer quand on est en affaires?
Non.
On a toujours fait ça comme ça.
Ouais.
J'avoue.
Fait que, être challengé, c'est loin d'être une mauvaise chose, c'est loin de là. Il faut l'être, se remettre en question quoi que ce soit. Pareil comme ce que tu disais, là. Je m'en repose souvent, moi, des questions chez nous, là. Puis, moi, puis là, présentement, j'étais jusqu'à samedi, mettons. Toutes mes œufs sont dans le même panier, moi, chez nous, là. Je suis juste dans le grain, j'ai pas d'autres productions. Là, je viens d'acheter une cabane à sucre. Fait que là, m'avoir au moins diversifié un peu mon revenu, là.
Ouais, c'est clair. Mais tu sais, dans le fond, au final, nous autres, c'est la même affaire, on est juste dans le port, mais ce qu'on justement, vu qu'on était dans le port, on s'est dit... Tu sais, moi, je suis pas un gars de tracteur, là, tu sais, j'ouvre ma cour l'hiver, puis ça me tanne, là. Mais... sérieusement, j'haïs ça. Mais,
ah, mais c'est correct, ça en apprend du monde de même.
Ouais, mais moi, je suis bon dans les bâtisses, je suis bon, à sauver des... On les bons, là, ma conjointe puis mes employés, on les bons à sauver des cochons. Fait que, tu sais, on voulait optimiser ça. Puis je pense qu'au final, tu sais, que quelqu'un qui se diversifie dans différentes productions, ou bien, tu sais, qui a des terres, ferme de tir, peu importe, mais, tu sais, si t'es capable d'exploiter quelque chose au maximum, puis d'aller chercher une efficacité puis de l'optimisation, ben tu vas être aussi bon, tu sais. Fait que, tu sais, moi, envoyez-moi pas avec un planteur semé du maïs, là, écoute, ça sera pas propre, là. Mais pour sauver des cochons, par exemple, ça, je suis capable d'en faire un bout, là.
Ah, ben, chacun sa place, parce que moi, envoyez-moi pas dans une porcherie.
Ah, c'est ça.
Parce qu'on avait, ben, mon oncle, il s'en était bâti, lui, en 2001. Ouais, ça va faire 20 ans. Ça fait 20 ans, je veux dire. Puis, on avait regardé ça aussi de notre bord, puis j'avais été travailler là-dedans dans une pouponnière pour voir si j'aimais ça, parce que c'était pas mon père qui arrêtait de travailler là-dedans, c'était moi. Puis écoute, moi, j'étais pas capable. Je suffoquais là-dedans, là. J'étais incapable. On a eu des vaches dans le temps, puis j'aimais pas ça. Fait, t'sais, moi, je suis pas un amoureux des animaux.
Mais moi, dans le fond, la seule raison, mais mes parents étaient dans le port, mais souvent, je dis que c'est parce que j'ai pas des vaches. Écoute, bon, quand j'étais jeune, mon grand-père avait une femme laitière, mais écoute, quand il me faisait passer là, dans l'allée en arrière, là, écoute, j'avais 5-6 ans, je suis plus drôle. Écoute, je passais, c'était comme la... Je voulais jamais aller à la grange. Mon grand-père avait 25-30 vaches. Mais pis c'est ça, puis écoute, j'ai un de mes amis qui avait une femme laitière, puis je suis allé l'aider un moment donné, puis écoute, il dit va gratter dans le box là-bas, je suis comme ah ouais, oh vas-y. Fait que là, j'avais comme la main sur la barrière, une main sur la grappe, j'étais comme hey, je suis à watch. Alors sérieusement, là, les vaches, je sais pas. Mais c'est là qu'après, que je connaissais pas ça partout, mais tu sais, c'est les jerseys qui sont
plus petites. Ouais.
Fait que là, le monde me dit, quand je compte cette histoire-là, il dit, oh, mais t'arrêtes d'avoir des jerseys, là, c'est plus petit. Je dis, ah, non, c'est la même affaire. Là. Non, les chevaux, c'est genre, c'est pas une phobie, là, mais les chevaux, j'aime pas ça. Là, j'aime ça, ça se mange, c'est bon, mais non, je n'arrête jamais.
Good.
C'est pour ça que je suis dans le cochon.
Puis t'as quelle grandeur de terre, au juste?
J'ai pas de terre pantoute. Ah, dans non, le fond, ah, quand j'ai pris la relève de la ferme, ben c'était dans le fond, vu que moi j'étais, je voulais juste être dans bâtisse, ben l'ancien propriétaire, ben lui, c'est bon, moi je vais garder mes terres. Okay. C'est sûr qu'on a pris un entente comme de quoi que tu sais, j'étais le premier acheteur sur ces terres et tout ça, puis éventuellement, tu sais, j'en fais pas, mais la journée qu'il va falloir que j'apprenne, je vais apprendre. Là. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas une priorité pour l'instant. Alors, lui, il avait 450 acres avec la ferme.
OK.
Fait que nous autres, on l'a acheté juste les bâtiments, puis ils étaient séparés, là, sont à 1 km de la maison. Là. Fait que, tu sais, c'est ça s'est fait en deux parties, on peut dire.
Puis t'as pas de misère à te disposer du fumier?
Non, mais lui, il va en prendre une bonne partie. Puis j'ai son frère aussi qui. Ses terres à son frère sont tout autour de la ferme parce que la ferme a été bâtie sur les terres du père de l'ancien propriétaire.
OK.
Donc, toutes les terres proches là, sont appartiennent à son frère. Puis j'ai un receveur pour l'automne. Mais non, tu sais, où ce que moi je demeure, c'est pas un secteur où ce qui est en surplus de fumier. Fait que c'est pas problématique.
Ah, OK. Parce que comme moi, dans mon secteur, du port, il n'y en a pas beaucoup. Comme je disais, il y a mon oncle, puis il y en a eu un autre, tu sais, qui s'était bâti en 2011. Il n'y en a eu quelques-unes. Mais à part de ça, c'était tous des porcheries qui sont quand même relativement récentes. Là, des porcheries de 50 ans, il n'y en a pas bien dans le coin. Là. Puis même, du poulet, il n'y en a pas bien non plus. Là, c'était surtout laitier qu'on est dans le coin. Puis là, c'est de plus en plus grande culture.
OK.
Dans le marché du porc, là, bon, comme moi, par exemple, je vais prendre un exemple dans le grain. Je peux vendre du grain longtemps d'avance. Je peux en vendre pour la prochaine récolte. Je peux en vendre longtemps d'avance. T'es-tu capable de faire pareil dans le porc?
Oui, t'es capable de faire pareil.
OK.
T'es capable de le faire avec... on va faire un petit plug au service des éleveurs de porc, là, mais t'es capable de le faire avec un courtier. Mais aux éleveurs de porc, on offre aussi le service qu'on appelle le service HDRM. Dans le fond, t'as pas d'appel de marge avec le service des éleveurs. Dans le fond, l'appel de marge est pris par les éleveurs. Et là, j'entends le gars qui va me dire « Oh, mais je le paye dans le collectif. » Oui, tu le payes dans le collectif, mais tu n'as pas besoin d'envoyer un chèque parce qu'il manque de l'argent. Fait que, tu sais, on peut faire la même affaire. Puis, tu sais, nous, je te dirais que la plupart des producteurs que je connais utilisent ces services-là parce qu'aujourd'hui, autant dans le grain que dans le porc, là, parce que tu ne peux plus passer à côté là, de ça. Tu sais, les hausses qu'on a vécues aujourd'hui, dans la dernière semaine, si tu passes à côté, tu passes à côté. Là, tu ne peux plus te permettre la SRA à couper. Depuis 2009, là, ça a coupé vraiment drastiquement. Fait que, tu sais, il faut que tu te sécurises des gains. T'as pas le choix. Là, t'sais. Fait que, t'sais, moi, je fonctionne comme ça. La plupart de mes amis, mettons, dans le secteur du porc, JP, tu pourras parler des producteurs qui font affaire avec toi, mais, tu sais, moi, tout le monde est pas mal là-dessus. Il en reste quand même des... sais, t'as genre des producteurs qui ont fait un mauvais move un moment donné, mettons, qui ont perdu de l'argent avec ça. Fait qu'ils sont tout le temps restreints par rapport à ça. Mais tu sais, moi, j'essaye, comme président régional, là, on a fait des formations de GRN, d'un service qu'on offre, puis on dit aux producteurs, mais autant utiliser notre service ou utiliser le service de Joe Bryan ou des courtiers de la Banque nationale, des trucs comme ça, pour justement vous sécuriser, parce que ça fait partie du coffre à outils du producteur aujourd'hui. Là.
Mais c'est là de l'importance de connaître aussi ses coûts de production. Là.
Ouais.
C'est là que tu sais, quand tu sais que tu dégages, disons, je ne sais pas, moi je lance un chiffre, c'est facile, mais 10 piastres du cochon, puis tu veux le geler, ben c'est là que cet outil-là là, est important. Là, sinon, si ça rebaisse, puis tu n'as pas... Tu t'es pas hedgé, ben c'est là que tu portes à côté. Mais il faut que tu saches c'est quoi ton coût de production pour commencer à prendre des positions. Sinon, tu es shooting in the dark, qu'on appelle. Il faut que tu saches un peu où tu t'en lignes. C'est important de connaître tes coûts de production. Ouais.
Puis, il y a vas-y, Jean-Louis-Philippe, excuse-moi.
Ce que je disais, c'est dans le fond, c'est que c'est ça, les producteurs aujourd'hui, tu n'as plus le choix vraiment d'utiliser ça. Là. Dans le grain, c'est la même affaire. Là. Tu vas-tu attendre à la dernière minute devant ton rêve. Oui, tu pourrais faire un bon deal, mais en même temps, si tu prévois rien, tu as plus de chances d'en perdre. T'sais. Fait que, je pense que les consultants dans le port commencent déjà de plus en plus habitués à utiliser ces services-là. Il y a différentes manières de se faire aider aujourd'hui, puis il ne faut pas passer à côté de ça pendant tout.
Ouais, comme dans le grain, là, je parlais avec un acheteur de grain qui me disait ouais, à peu près 80 % du monde, quand ils vendent du grain, il faut qu'ils sortent la même semaine.
Non,
Il n'y a pas tant que ça, tu sais, qu'ils vont fermer des positions longtemps d'avance ou, mettons, qu'ils vont fermer la base US, ils vont fermer le taux de change plus tard puis fermer le Chicago une autre fois. Tu sais, ça, il y en a encore de moins en moins qui font ça.
OK.
C'est différent un peu, là, je te dirais. Puis, dans le marché du porc, présentement, il y a quel pourcentage qui provient, mettons, des porcs en forfait versus ceux qui sont complètement à leur compte, comme toi, par exemple, ou Philippe?
Ben ça, écoute, c'est la grande question tout le temps, là, mais ça reste que on est encore aujourd'hui, puis le chiffre est quand même très bon, du 70 % mettons, d'intégration, et 30 % de d'éleveurs à leur compte indépendant. Tu sais, ça ressemble à ça aujourd'hui. C'est sûr que les modèles d'affaires, ils changent. Ils ont toujours changé. Puis, ils évoluent. Puis c'est correct. Là. Tu sais, on est rendu en 2021. Là, c'est correct. Sauf que, tu sais, c'est sûr que le producteur indépendant, ben, moi, je l'ai dans le cœur quand même un peu. Là. Je suis producteur indépendant moi-même. Ouais. Fait que, tu sais, puis mon implication est ça aussi. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des gens qui font des choix d'affaires, qui s'en vont à forfait. Puis, je dis ça de même. Tu sais, je vise pas personne, mais tu sais, des fois, aujourd'hui, pour être producteur indépendant, il faut que tu gères à la bourse ton grain, il faut que tu gères à la bourse tes cochons, il faut que tu sois compétent partout. Mais tu sais, des fois, j'ai parlé avec des gars qui étaient à forfait qui m'ont dit « Gars, moi, je veux plus m'occuper de ça, j'aime ça être dans le port, j'aime ça travailler avec les animaux, mais moi, je veux juste faire de la régie, tu sais, je veux juste gérer des cochons. » Fait que les gars, ils se mettent à forfait de même, tu sais. Mais c'est pas... Puis tu sais, ça a été critiqué. Tu sais, il y a comme déjà eu des guerres entre producteurs indépendants et producteurs à forfait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas parce que justement, tu sais, ça a tellement changé. Il y a tellement de stress, tellement de pression que moi, quand un gars qui m'explique ça puis il me dit « Moi, j'ai fait ce choix-là à cause de ça », ben, fine, là, c'est correct. Là, tu restes producteur agricole puis pour ma part, ça n'en est plus un débat. Sauf qu'en même temps, de l'autre côté, ben moi, je veux qu'il reste des producteurs indépendants. Tu sais, le prix qu'on est allé chercher aux éleveurs, tu sais, la négociation avec les acheteurs, où on est allé devant la régie et tout, ben, le fait qu'on est allé chercher un prix intéressant, tu sais, on a un prix qui est quasiment meilleur en Amérique du Nord, la formule qu'on a, ça permet justement aujourd'hui d'avoir des familles encore producteurs de porc indépendants, des entreprises qui vont se développer. C'est pas parfait, ça sera jamais parfait, mais au moins, on est capable de mieux être payer pour le prix qu'on fait. Puis, tu sais, le producteur agricole, peu importe ce soit dans le porc, dans le céréal, dans le lait, c'est ce qu'il veut, c'est toujours avoir le juste prix pour son produit au final.
Tu sais. Oui, oui, il ne fait pas ça pour le fun non plus. Là.
Non, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme le secteur du porc, mais ton concurrent, c'est la planète. Là. Tu sais, c'est de voir si le Brésil va produire un cochon moins cher. Qu'est-ce qui va se passer en Chine? Tu sais, ça a de l'impact. Quand il y a la fermeture avec la Chine, tu sais, c'est plus juste OK, je m'en vais à l'encan du coin puis je vais vendre mes cochons. Là. Fait que tu sais, le stress, la gestion de tout ça, c'est énorme. Là. J'en parlais justement, il me disait avec ma blonde, j'ai dit, tu sais, oh, parce qu'on on parlait des aiguilles. Des aiguilles, justement, des déchets biomédicaux.
Okay.
Puis là, on se disait, tu sais, le monde ne sont pas conscients chez eux qu'un producteur agricole doit gérer des déchets biomédicaux, tu sais. Fait que là, tu dis, tu sais, ça rajoute tout le temps sur les tâches à faire du producteur. Puis c'est correct, là, on vit avec ça. C'est pas. Je vis bien avec ça. Mais, tu sais, il y a beaucoup de tâches qu'un producteur agricole fait, dans peu importe sa production, que les gens ne sont pas conscients de l'ampleur du travail qui est fait pour produire un cochon, produire une tonne de céréales, tu sais.
Oh, oui.
C'est souvent ça le problème parce que les gens sont déconnectés un petit peu du monde agricole pour. Toutes les raisons possibles qu'il y a à énumérer, là, mais ça crée une pression sur les producteurs agricoles. Ça,
ben, tout le
temps. C'est quasiment un discours, discours de l'UPA.
Oui, effectivement. Puis quand tu vends des porcs, c'est qui te paye? Est-ce que c'est les éleveurs de porcs qui te payent ou c'est l'acheteur, l'abattoir ou...
C'est les éleveurs de porc, dans le fond, vu qu'on est en marché collectif.
OK.
La paye va rentrer aux éleveurs de porc. C'est les, tu sais, dans le fond, Olimel ou les acheteurs, là, peu importe. Là, c'est BCO pour nommer l'abattoir du groupe Cérès maintenant, mais ils vont envoyer l'argent aux éleveurs de porc et le paiement se fait par les éleveurs de porc.
OK. OK.
Écoute, je pourrais pas te dire ça fait depuis combien de temps, là, mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça.
OK. Un peu comme dans le lait puis dans le sirop d'érable.
Oui, c'est ça. C'est ça, en plein ça.
OK. Ben, nous autres, dans le grain, c'est sûr que c'est l'acheteur qui nous paye, sauf si tu dis que ça faut que tu rembourses tes paiements anticipés, ben là, il envoie le chèque à Fédération. La Fédération garde le montant de paiement anticipé, puis il te retourne le restant.
OK. OK.
Fait que c'est ça qui est un petit peu différent. C'est sûr qu'on n'a pas mal plus d'acheteurs que le nombre d'abattoirs qu'il peut avoir au Québec, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est sûr.
On est vraiment, c'est deux mondes complètement différents.
Oui, carrément.
Yes. Carrément. Puis bon, ben, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, les gars?
Ben, on est principalement sur Facebook. Fait que vous allez sur Facebook. Puis vous tapez, je vais le podcast. P-O-R-C-A-S-T. Puis vous allez pouvoir nous trouver là-bas, là, partager nos vidéos, aller écouter ça. Puis si vous êtes intéressé par la production porcine, vous êtes intéressé à en connaître davantage, c'est la place à être au Québec pour un podcast francophone sur la production porcine. Yes.
C'est cool. Puis t'es un acheteur accrédité par la régie, Jean-Philippe?
Pour le grain, ça excuse.
Oui. T'as cautionné à régie pour acheter ton grain?
Je sais pas, je suis capable de... Je connais pas... C'est pas moi directement qui achète des grains, là, tu commences pas, là, cette question-là.
Non, c'est vrai, c'est ton frère.
Ouais, c'est ça.
Cool. Hey, c'était super cool de vous parler, les gars. Puis à tout le monde, ben, je vous souhaite... je vous dis un gros merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Puis écoutez, partagez le podcast autant que vous pouvez. Le plus qu'on a d'écoute, ben, plus c'est le fun. Fait que sur ce, bon ben, salut tout le monde!